Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. L'enquête pour viol contre Patrick Poivre d'Arvor, classée sans suite, 8 femmes avaient porté plainte. Le parquet de Nanterre invoque la prescription et l'insuffisance de preuves. Contre Valérie Bacot, meurtrière de son mari violent, l'accusation demande la clémence, un an ferme, une peine qu'elle a déjà effectuée. À l'hôpital, des reprogrammations d'interventions trop lentes, malgré la baisse continue de malades du Covid. La campagne de vaccination ralentit, les femmes, les jeunes, les classes populaires et les minorités sont les plus réticents à se faire vacciner, indique une vaste étude menée sur plus de 80 000 personnes. L'Europe en colère mais impuissante contre la Hongrie homophobe de Viktor Orban et la mobilisation de certains joueurs hollandais qui vont jouer à Budapest dimanche. Ils mettent la pression sur l'UEFA pour ne pas réentendre les cris racistes. Le télétravail pourrait marquer une étape de l'évolution humaine et nous rapprocher du mode de vie des chimpanzés. C'est le dernier livre stimulant du paléo-anthropologue Pascal Pic, Les chimpanzés et le télétravail. Il est notre invité.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les accusations font souvent la une, les classements n'ont lieu ou relaxent beaucoup plus rarement. Patrick Poivre d'Arvor, qui faisait l'objet d'une enquête pour viol et agression sexuelle, 8 femmes en tout avaient porté plainte contre lui. Patrick Poivre d'Arvor vient de se voir innocenté, enquête classée sans suite pour prescription ou insuffisance de preuves, annonce le parquet de Nanterre, Justin Morin.
Oui, l'enquête préliminaire menée par la brigade de répression de la délinquance contre la personne aura duré 5 mois. 5 mois pendant lesquels les enquêteurs ont entendu Florence Porcel, la première à avoir déposé plainte, c'était en février dernier, mais aussi 22 autres femmes qui se sont manifestées dans les semaines qui ont suivi. Toutes ont dénoncé des faits de viol, d'agression sexuelle ou de harcèlement sexuel de la part de Patrick Poivre d'Arvor. Au final, la procureure de Nanterre estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'ancien présentateur de TF1 parce que la quasi-totalité des faits sont prescrits. Seul le viol dénoncé par Florence Porcel, qui aurait été commis en 2009 dans le bureau de Patrick Poivre d'Arvor, pouvait aboutir à des poursuites judiciaires. Des faits que l'ancien présentateur a toujours contestés. Mais concernant ces accusations, l'enquête a conclu qu'aucun élément ne permet de confirmer les propos de l'un ou de l'autre. Enfin, la plainte de Patrick Poivre d'Arvor pour dénonciation calomnieuse contre Florence Porcel a elle aussi été classée sans suite. Le parquet a estimé que l'intention de nuire n'a pas été démontrée.
Au procès de Valérie Bacot, accusée d'avoir tué son mari violent et proxénète, le verdict est attendu aujourd'hui aux assises de Saône-et-Loire. Ce matin, l'avocat général a requis une peine symbolique, 5 ans de prison, dont 4 avec sursis, Marion Dubreuil.
Oui, l'avocat général a donné une instruction claire aux jurés et à la cour d'assises. Valérie Bacot ne doit pas retourner en prison. 5 ans de prison, dont un an ferme qu'elle a déjà effectué. Cela suffit pour fixer l'interdit de tuer et accompagner la renaissance de l'accusé. Des réquisitions inattendues pour Valérie Bacot, qui a fait un malaise au beau milieu de la salle d'audience. Le choc, comme nous l'explique son avocate Nathalie Tomasini.
Lorsque je lui ai expliqué ce que ça voulait dire, parce qu'elle n'avait pas compris en fait. Elle a fait un malaise, une crise d'angoisse.
C'est le choc qui a été terrible pour elle parce que, comme vous l'avez tous entendu, Valérie pensait qu'elle méritait une peine et elle était totalement prête à retourner en détention aujourd'hui. Elle avait préparé ses affaires et là, elle a eu un éblouissement.
Depuis, le SAMU est arrivé au tribunal. Valérie Bacot a été prise en charge par les secours et l'audience devrait reprendre avec elle dans une demi-heure. Ses avocates ont l'intention de plaider l'abolition du discernement à cause de l'emprise. L'avocat général, lui, a demandé au jury.
Liaison interrompue avec Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. C'était Marion Dubreuil qui nous parlait depuis les assises de Saône-et-Loire. Mais vous avez compris l'essentiel de l'information. 5 ans de prison, dont 4 avec sursis, donc un non ferme déjà effectué. C'est la clémence donc réclamée par l'accusation contre Valérie Bacot. La crise sanitaire s'éloigne, les hôpitaux devraient respirer. Et pourtant non, pas tout à fait. On ne compte plus que 9800 patients Covid hospitalisés. Les services de réanimation ne sont occupés qu'à 30%, mais d'après une enquête de Que Choisir, les reprogrammations d'intervention prennent du retard et on est loin d'un retour à la normale, Anne Le Gall.
Voilà, on parle ici de toutes ces opérations non urgentes annulées depuis le printemps 2020 pour libérer des lits pour des patients Covid. Chirurgie de la cataracte, orthopédie, pose de prothèses, mais aussi notamment coloscopie ou fibroscopie pour faire du dépistage de cancer. Un an plus tard, tout cela reste très compliqué. Sur les opérations annulées entre mars 2020 et mars 2021, 2021, 40% n'ont toujours pas eu lieu et près d'un tiers n'ont même pas été reprogrammés, explique Lauriane Lemaine, chargée de mission santé à l'UFC Que Choisir.
Aujourd'hui, on est vraiment face à un embouteillage de patients. Et dans un quart des cas, les usagers ne sont même pas au courant de la date à laquelle leur prochaine opération devrait se tenir. Donc on imagine les conséquences en termes de stress. Normalement, on est tous censés pouvoir accéder aux soins quand on en a besoin.
Et dans 80% des cas, ces malades estiment subir en conséquence de l'inconfort, des douleurs ou du stress. 5% évoquent aussi des pertes de chance avec un retard de diagnostic. L'UFC Que Choisir en appelle donc au pouvoir public pour qu'il facilite le recours aux cliniques privées pour reprogrammer ces opérations. Le ministère de la Santé indique de son côté que le rattrapage des retards de soins prendra forcément plusieurs mois et qu'il y travaille pour que tous les secteurs puissent participer à cet effort.
Et pendant ce temps, la campagne vaccinale s'essouffle. En 2 semaines, le nombre de premières doses injectées en France a été presque divisé par 2, alors que le mouvement est inverse pour les secondes doses. Alors comment convaincre les indifférents ou les réticents? Et d'abord, qui sont-ils? Une étude réalisée par 2 sociologues auprès d'un vaste échantillon de 85 000 personnes livre pour la première fois l'ampleur et le profil des phénomènes de rejet ou d'hésitation face au vaccin anti-Covid, Mathieu Bock.
Oui, cette étude résume de manière assez surprenante, en fait, que les personnes les plus méfiantes face au vaccin sont en réalité celles qui sont souvent le plus exposées. Ce sont par exemple les catégories sociales les plus modestes qui hésitent à se rendre dans les centres. Or, ce sont elles qui ont travaillé sans relâche pendant les différents confinements et qui occupent souvent des emplois avec beaucoup de contacts humains. Les jeunes aussi sont surreprésentés, même s'ils sont plus résistants. Le virus circule énormément parmi eux, car ils sont souvent moins enclins à respecter les gestes barrières. Les femmes également sont surreprésentées. La crainte de prendre un risque lors d'une éventuelle grossesse est la première raison de cette méfiance, et on voit qu'à partir de 45 ans, cette méfiance diminue. Cette étude a donc été transmise à Anna Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, qui a reconnu qu'une campagne pour inciter à se faire vacciner serait plus efficace si elle était ciblée en direction de ces populations plutôt qu'une seule campagne universelle et qui a donc moins d'impact.
Mathieu Bock, merci. Une dernière information en économie. Le tarif réglementé du gaz a augmenté de près de 10% en juillet, décision ce matin du régulateur de l'énergie.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Une pause avant la suite, les GAFA, Google, Amazon, Apple, qui commencent à trembler face au Congrès américain, et la Hongrie, homophobe au banc de l'Europe.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Peut-être un coup d'arrêt à la toute-puissance des géants de la tech, Google, Apple, Facebook et Amazon, comme Joe Biden l'avait promis durant sa campagne, à la suite de plusieurs parlementaires démocrates à l'offensive. Le Congrès de Washington est en train de préparer de nouvelles règles qui viendraient sérieusement limiter les pouvoirs de ces GAFA, Clément Le Saffre.
Oui, c'est le résultat de 15 mois d'enquête de la sous-commission sur l'antitrust à la Chambre des représentants, une commission bipartisane qui a notamment entendu les patrons de Google, Amazon, Facebook et Apple. L'objectif est très clair, démanteler partiellement les GAFA, accusés de profiter de leur toute-puissance sur Internet, comme l'a rappelé le démocrate David Cicilline, président de la commission.
Dans le numérique, beaucoup de marchés sont caractérisés par un monopole ou un duopole. Amazon, Apple, Facebook et Google ferment la porte de l'économie numérique. Ils enterrent ou rachètent des rivaux et abusent de leur pouvoir. Ces pratiques pénalisent les consommateurs, la concurrence, l'innovation et la démocratie.
Alors, la commission a donc adopté 6 mesures visant à mieux contrôler les géants du numérique en les empêchant, par exemple, de limiter l'accès à leur plateforme de vente en ligne aux vendeurs tiers, ou bien de mettre en avant leurs propres produits sur leur site, ou encore en leur interdisant d'acquérir des concurrents pour renforcer leur position. Alors, ce n'est qu'un premier pas. Il faut désormais que ces propositions de loi soient votées à la Chambre des représentants, à majorité démocrate, puis au Sénat, où là, ce sera un peu plus compliqué. Mais ce n'est pas une utopie non plus. Une frange des Républicains plus modéré a déjà exprimé son soutien à ces propositions.
Clément Le Saffre à suivre. À Bruxelles hier soir, une confrontation inédite, un dirigeant tensé par presque tous les autres au nom des valeurs européennes. C'est le Hongrois Viktor Orban, vilipendé pour sa loi homophobe, qui a même été invité par plusieurs de ses homologues à quitter l'Union européenne, Isabelle Horry.
Oui, dans l'enceinte même du Conseil européen, ils ont voulu lui faire comprendre qu'il avait cette fois franchi la ligne rouge du Hollandais Rutte qui lui demande s'il ne veut pas activer l'article 50 du traité européen, celui qui a permis le Brexit, à Emmanuel Macron qui lui lance « Victor, tu étais libéral, que s'est-il passé ?» en passant par le Suédois Leven qui prévient que ses contribuables ne paieront pas s'ils ne respectent pas l'état de droit. Le Belge De Croo a fait remarquer qu'on ne choisissait pas d'être homosexuel, mais que l'homophobie, elle, était un choix. Sur un ton plus personnel, le luxembourgeois Xavier Bettel a raconté devant tous que sa mère n'avait pas compris quand il lui a annoncé qu'il était gay.
Moi, ma conclusion après le discours, ça a été de me rappeler un dîner que j'ai eu il y a 5, 6 ou 7 ans avec Viktor Orban à Budapest avec mon mari. Et le Viktor que j'ai aujourd'hui autour de la table n'est plus le Viktor que j'ai connu il y a quelques années, qui était quelqu'un qui était ouvert, qui était tolérant. C'est pas le même. Et ça m'a beaucoup déçu et je lui ai dit.
Le Premier ministre luxembourgeois Bettel. Mais Isabelle, c'est une colère impuissante qui ne débouchera sur rien contre le régime hongrois.
Effectivement, car on ne peut pas forcer un pays à quitter l'Union, il n'y a pas de procédure pour ça et aucun des outils qui existent en théorie n'est efficace, soit parce qu'ils nécessitent un vote à l'unanimité, soit parce que leur champ d'action est trop limité. Bref, il ne reste que la longue route de l'infraction devant la justice européenne. Elle prendra au minimum des mois et ça, Viktor Orban le sait très bien, il n'a rien lâché hier soir.
Isabelle Horry en direct de Bruxelles pour Europe 1. Merci. La Hongrie qui s'est illustrée depuis le début de l'euro par les cris racistes ou homophobes de bon nombre des supporters qui peuplent le Puskás Arena de Budapest. C'est là que les Pays-Bas joueront dimanche contre la Tchéquie. Et le Hollandais Wijnaldum, qui est aussi une nouvelle et brillante recrue du Paris Saint-Germain, vient de mettre la pression sur l'UEFA pour ne pas que ça se reproduise, Simon Rubin.
Exactement. Je pense que c'est à l'UEFA de prendre la décision d'interrompre le match. Voilà ce que dit le joueur qui ajoute « L'UEFA doit dire « ce n'est pas possible, on ne peut pas accepter cela, l'instance doit protéger les joueurs ». Le milieu de terrain néerlandais se réserve le droit de quitter la pelouse, même si, il le sait, c'est sans doute ce qu'espèrent les spectateurs racistes. C'est tout l'enjeu d'ailleurs du racisme dans les stades. Un joueur seul ne peut pas se défendre ou alors il est pénalisé sportivement en quittant le terrain. En toute logique, c'est à l'organisateur et aux arbitres d'être en capacité de réagir. Alors, Wijnaldum adresse clairement un avertissement à l'UEFA après que le public hongrois, vous le disiez, à Budapest a insulté plusieurs joueurs français notamment. Aucune sanction n'était alors tombée. Après les tensions entre Allemagne et Hongrie sur l'homophobie, nouvel accrochage très politique, toujours avec la Hongrie de Viktor Orban, cette fois sur le racisme. Et ces tensions mises en lumière par le foot, on les retrouve, Isabelle Horry en parlait jusque dans les discussions entre dirigeants de l'Union à Bruxelles. Loin de célébrer une Europe unie, comme c'était le but, cet Euro de football révèle en creux les tensions, les lignes de fracture qui cisaillent l'Union européenne aujourd'hui.
Simon Rubin, l'Euro, c'est aussi un vaste espace de paris en ligne. 25 millions d'euros de mise lors du match France-Hongrie la semaine dernière, record absolu. Le problème, c'est que les parieurs sont de plus en plus jeunes. Normalement, il faut être âgé de plus de 18 ans, mais il est assez simple pour un mineur de mentir sur son âge sur Internet. D'après l'association SOS Joueurs, 4 jeunes de 17 ans sur 10, 4 jeunes sur 10 font des paris sportifs. Reportage de Zoé Pally en Seine-Saint-Denis dans une cité de Noisy-le-Grand.
Impossible de manquer les grandes affiches publicitaires placardées sur tous les abribus dans la rue du collège. Elles mettent en scène un rappeur star chez les jeunes qui joue les plus grosses cotes et gagne des millions.
Moi, ça m'a attiré directement, l'affiche. Et aussi, il y a beaucoup de pubs sur les réseaux, sur Snapchat surtout.
Une opération séduction réussie. Dans la cour de récré, ici, c'est un peu la compétition à qui misera le plus grâce au code de carte bleue d'un grand frère ou d'un parent.
Quand tu paries, tu ressens mieux les émotions et tout ça. Par exemple, si ton équipe, elle marque, tu vas crier parce que t'as parié une grosse somme d'argent.
T'as pas parié, tu vas dire ouais, bof.
Au risque de devenir accro, Antoine et Erwan ont 16 ans. La sonnerie de la récré n'a même pas fini de retentir qu'ils se jettent sur leur téléphone.
Quand c'était la pause du foot en attendant l'euro, j'avais envie de gagner de l'argent quand même hein, et vibrer aussi sur les matchs. Et du coup, tu paries des trucs que tu connais même pas. Du foot australien, du hockey et tout, à 2h du matin, 3h.
Plus quand tu fais ça, c'est quand tu commences à perdre. Et là, tu commences à faire un peu n'importe quoi. T'as envie de regagner vite, au final, tu perds encore plus.
Karim vient justement de laisser filer 50 euros après s'être plusieurs fois promis d'arrêter.
Moi, ça m'est même arrivé mettre des 200 euros, 250, juste pour un match. Et en même temps, on a grandi dans ça, ça veut dire maintenant tout le monde le fait. Les grands de notre quartier, ils font des paris et après nous, on rentre dans l'engrenage. On essaye à faire pareil.
Et ce, malgré l'exemple de jeunes adultes dans leur entourage qui se retrouvent endettés après avoir perdu des centaines, voire des milliers d'euros en paris.
Zoé Pallier, le temps, Valérie Darmon, temps contrasté.
Effectivement, de la Bretagne et des Pays de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France, de nombreux passages nuageux encombrent votre ciel jusqu'à ce soir et la pluie tombe même par moments assez fort. Et les pluies deviennent plus fréquentes et se renforcent même cet après-midi sur la région parisienne. En allant vers le sud et l'est de l'Hexagone, le soleil qui prend de plus en plus de place, par contre de l'Alsace jusqu'aux Alpes frontalières et sur les Pyrénées, là les nuages sont plus compacts et résistants, donnant quelques averses sur les reliefs. Et puis les maximales, elles aussi entre 19 et 25 degrés, 25 à 28 dans le sud-ouest et jusqu'à 31 sur la Méditerranée.
Merci Valérie.